Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, que demande le peuple ? Bonjour Pierre-Henri Tavoyot.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, président du Collège de philosophie, vous enseignez à la Sorbonne Université et à Sciences Po. Votre dernier ouvrage, publié il y a quelques mois de cela chez Odile Jacob, « Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique ». Alors il est encore trop tôt pour mesurer l'impact politique et institutionnel qu'aura la Convention citoyenne sur le climat. Celle-ci vient à peine de commencer ses travaux. La deuxième session a lieu ce week-end dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Mais cette innovation est suffisamment singulière et inédite en France pour qu'on lui prête une attention soutenue. Depuis le début du mois, 150 citoyens sélectionnés pour leur représentativité après avoir d'abord été tirés au sort auditionne des experts et délibère leur mandat tel qu'il est écrit noir sur blanc sur le site de la Convention, définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale, rien que ça. Alors la Convention citoyenne pour le climat, c'est un peu le tout en un de la démocratie participative. Tirage au sort, délibération citoyenne, référendum, puisque ce pourrait être une des issues de la délibération. Les modalités qui encadrent cette initiative reprennent en tout cas des revendications exprimées dans les derniers mouvements qu'a connu la France. Les Gilets jaunes, Nuit debout et bien sûr les mobilisations autour du climat. Cette demande d'une plus grande participation en dehors des grands rendez-vous électoraux peut être vue comme un des stigmates de la crise de la démocratie représentative, même si dans le même temps, ce sont bien les représentants choisis par les citoyens qui sont interpellés par ces mouvements. On le voit notamment ailleurs qu'en France, dans les mobilisations en cours au Chili, en Algérie, au Liban. Alors que demande le peuple ? C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Pierre-Henri Tavoyot. Je ne sais pas si vous avez été tiré au sort pour cette convention. Il y a nombreuses personnes qui l'ont été. On sait que ça a été le cas, par exemple, pour Daniel Cohn-Bendit. Si ça avait été le cas, en tout cas, est-ce que vous auriez accepté ? Est-ce que vous auriez aimé participer à cette convention pour le climat ?
Oui, incontestablement, quand on aime la politique, on a envie de participer à ça. Même si, je dois dire, j'ai les plus grandes réserves intellectuelles et politiques, d'ailleurs, à l'égard de ce type de pratique. Mais en tout cas, oui, j'aurais pratiqué avec plaisir, parce que oui, il est trop tôt pour savoir ce que ça va donner, ça c'est clair, mais ça répond à quelque chose qui est, je trouve, intéressant en démocratie, ce qu'on appelle les conférences de consensus, qui ont été beaucoup pratiquées, notamment dans les pays nordiques, sur des sujets, alors il est vrai, beaucoup plus délimité, de faire en sorte que les citoyens deviennent, se mettent en position de décideurs. Et je trouve que c'est une démarche, en tout cas intellectuelle, qui est très positive, c'est-à-dire effectivement se dire que on doit se mettre à la place des politiques. Je pense même dire pour un intellectuel, c'est la démarche même, se penser en se mettant à la place d'autrui, en se mettant à la place des politiques. C'est ce que disait Raymond Aron notamment.
Mais tout dépend en fait jusqu'où on pousse le fait de se mettre à la place de. Bah, vous allez avoir l'occasion de nous exprimer vos réserves. Mais écoutons d'abord peut-être ce que cela donnait lors de la première session. C'était début octobre et ce sont des témoignages qui sont directement issu du site de la Convention citoyenne pour le climat.
Nous allons tirer au sort 5 tables qui vont venir présenter des remarques à propos de la Convention en général. Table 17.
Alors sur les objectifs, on s'est demandé comment obtenir un consensus à 150 et comment le partager avec le reste de la population et des parties prenantes.
17, 18.
Les objectifs sont identifiés. On a les solutions, grosso modo. Donc est-ce que l'objectif de la Convention, c'est pas simplement de légitimer certaines de ces solutions ?
Table 19.
Bonjour. Est-ce que l'objectif est réaliste et atteignable ? Est-ce que le gouvernement ne se défausse pas de sa responsabilité sur la Convention citoyenne ?
Merci.
Alors Pierre-Henri Tavoyot, ce qu'on voit avec cette Convention citoyenne pour le climat, en tout cas ce sont les engagements qui sont pris, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de faire un jeu de rôle, c'est-à-dire que des citoyens se mettent à la place des politiques, ça va aller jusqu'au bout normalement, c'est-à-dire l'idée c'est de délibérer, de proposer des mesures qui auront à un moment donné force de loi, soit elles seront soumises à référendum, soit au Parlement, soit ce sera dans le cadre réglementaire. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il en sorte vraiment quelque chose. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes malgré tout un peu réservé ?
Alors, s'il n'y a pas que ça, mais disons que le gouvernement s'engage aussi à examiner ces propositions et pas forcément à les valider comme telles. Ces propositions n'auront pas systématiquement force de loi. Et puis après, il y a aussi la représentation nationale qui aura à se présenter.
Il s'engage à ce qu'elle soit soumise sans filtre, soit à référendum, oui, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. Oui, c'est quand même un engagement fort.
C'est un engagement fort, mais après, encore une fois, le politique et les représentants, la démocratie représentative aura le dernier mot, dans un sens ou dans un autre. Non, mais mes réserves, alors, encore une fois, il faut être très prudent parce que c'est en cours, donc il ne faut pas faire procès d'intention, mais j'ai des réserves sur le contexte, en fait. Si tous les textes sont accessibles de la première session, donc il y a un premier document dont le statut est un peu particulier, qui s'appelle Socle. Socle de connaissances pour initier ce débat. J'ai lu ce texte, je suis un peu troublé par ce texte qui ressemble un peu à une sorte de catéchisme sur les questions climatiques, qui est d'ailleurs rédigé par des entités qui ne sont pas forcément claires. Il y a une société de conseil que je connais bien par ailleurs qui s'appelle Eurogroupe. Le statut de ce texte est un peu ambigu. Je trouve que c'est un texte qui est beaucoup moins nuancé, avec beaucoup moins de prudence qu'on peut trouver dans les rapports du GIEC, par exemple. Donc je me dis, voilà, le point de départ est déjà un peu problématique. Deuxièmement, il y a tous des éléments de contexte qui sont un peu troublants. D'abord, il y a des garants qui sont présentés comme garants, mais qui sont en vérité quand même vraiment des militants. Je pense notamment à Cyril Dion, qui est un vrai militant de la cause, qui exige dans un papier récent paru dans Oui Demain qu'il faut arrêter la production de voitures en 2020. Enfin, comment on peut être garant quand on est aussi, disons, militant sur ces questions? Ça me trouble aussi. Ce qui me trouble aussi,
c'est... On pourrait vous retourner la proposition en disant, mais comment est-ce qu'on ne peut pas être militant quand on s'intéresse de près à ces questions?
Non, je pense que là, il faut adopter une position de relative neutralité, j'allais dire presque de laïcité sur ces questions, avec des gens qui soient vraiment des garants du débat et pas des personnes qui sont engagées radicalement. Il y a aussi, ça c'est anecdotique, mais le fait que certains textes et pas d'autres soient rédigés en écriture inclusive. Je veux dire, vraiment, je trouve ça très troublant, parce que c'est même pas cohérent d'ailleurs. Il y a un début de réécriture inclusive, et puis ensuite, voilà. Et puis troisièmement, c'est l'objection principale, c'est immense comme sujet. Les conférences de consensus telles qu'elles sont pratiquées au Danemark, c'est à chaque fois des questions extrêmement précises. On l'a fait d'ailleurs en France sur la question de la gestation pour autrui, faut-il payer ou pas des mères porteuses. Oui, je trouve que là, ça a du sens, parce que ce sont des questions précises, identifiées. Là, il s'agit juste de sauver le monde tout seul.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, Pierre-Henri Tavoyot, ce sont des questions qui sont trop importantes et un mandat qui est trop large pour être confié à de simples citoyens?
Non, c'est pas du tout l'objet, c'est le fait que la question est immense. C'est immense. Donc, 150 citoyens aussi bonne volonté soient-ils, c'est pas le problème. C'est que il y a là des enjeux qui engagent toute la politique. Toute la politique française, mais toute la politique internationale. Et quand bien même on arriverait, nous, en France, à trouver des solutions brillantissime et génial, la question se poserait de savoir si nous mettons, nous Français, en place ces solutions, qu'en est-il du reste du monde? Parce qu'il faut bien être clair, la contribution de la France au réchauffement climatique est notable, mais elle est malgré tout infime par rapport à des puissances qui d'ailleurs ne sont pas forcément toutes des démocraties. Et c'est ça la vraie difficulté. J'allais dire, il y a une sorte de solutionnisme citoyen dans cette affaire, en disant on a un problème immense, les politiques savent pas comment le résoudre, lançons, d'ailleurs c'était ce qu'on entendait tout à l'heure, donnons la patate chaude à quelques citoyens et puis on verra bien.
Pour quelle raison, alors justement, est-ce que ce ne sont pas les parlementaires qui sont en charge de ce mandat? Pourquoi c'est pas à eux qu'on le confie? Est-ce que ça témoignerait justement de cette crise de la démocratie représentative dont on entend beaucoup parler, dont on peut remettre en cause d'ailleurs l'existence et peut-être l'amplitude? Mais pourquoi c'est pas au Parlement qu'on confie ce mandat?
Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le Parlement devrait prendre cette fonction. Alors, quand on parle de crise de la représentation, souvent on dit, nous citoyens, nous sommes pas bien représentés. Allez, les élus ne nous représentent pas, ils ne nous ressemblent pas. Je suis désolé, mais de ce point de vue-là, jamais nous autres citoyens français n'avons été autant représentés. C'est-à-dire, je veux dire, la moindre petite contestation immédiatement bloque une situation. Donc, la représentation n'est pas du tout en crise, en vrai. Mais là où il y a une crise, c'est qu'effectivement, la dimension, nos représentants sont dévalorisés. Et les élus eux-mêmes manquent de marge de manœuvre de décision politique. Je pense qu'aujourd'hui, un des problèmes de la France, c'est qu'on se dit, la représentation, alors cette fois-ci au sens institutionnel, le Parlement ne marche pas bien, donc créons des trucs à côté. Et sans voir qu'on affaiblit en fait la représentation. Aujourd'hui, il ne tiendrait.
Ou en le voyant peut-être, c'est-à-dire ça, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de délibéré de la part du pouvoir exécutif d'affaiblir le Parlement en le contournant à travers ce genre d'assemblée citoyenne.
Alors, j'aurais pas cette vision un peu paranoïaque parce que je pense que l'exécutif, à mon avis, aurait tout intérêt, même pour son efficacité, à avoir un Parlement qui serait beaucoup plus ouvert. Je veux dire, le contraste est saisissant pour ce qui est de la France quand on regarde ce qui vient de se passer en Angleterre avec les débats du Brexit, parce qu'on voit effectivement ce qu'est un Parlement où les choses se disent, bon, même si, attention, le Parlement anglais est aussi un Parlement où les choses sont bloquées, hein, la décision sur le Brexit est largement bloquée. Mais il y a là une image qui nous renvoie à quelque chose. On a oublié le fait aujourd'hui que les parlementaires ont toute latitude pour prendre en charge eux-mêmes ce type de questions.
Et pourquoi ils le font pas, alors?
Pourquoi ils le font pas? Parce que, d'une part, leur temps est saturé assez largement par le vote de lois qui sont des lois un peu fourre-tout. Et puis aussi parce qu'il y a une logique majoritaire, ce qui fait que la majorité au Parlement se sent dans une logique de soutien obligatoire à l'exécutif. C'est une grave erreur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des parlementaires, je pense notamment à François Cornu-Gentil, qui est un parlementaire LR, mais qui défend une thèse, je trouve, extrêmement intéressante, qui consiste à dire, la fonction du Parlement, ce n'est pas essentiellement de voter des lois, la fonction du Parlement, c'est d'évaluer si la loi est nécessaire, faut-il des lois, et une fois que la loi a eu lieu, est-ce qu'elle est efficace? Donc, en amont, élément de diagnostic, en aval, élément d'évaluation. Rien n'empêche aujourd'hui le Parlement de le faire. Et Cornu-Gentil a cet avantage, c'est que lui-même met ça en pratique. C'est-à-dire qu'il a fait par exemple une enquête sur la Seine-Saint-Denis, qui est typique de ce que devrait faire le Parlement précisément sur ces questions écologiques aujourd'hui.
Il y a le jeu politique que vous évoquez, il y a aussi les échéances électorales qui font que, quand on veut être réélu, on est peut-être aussi contraint parfois par certaines bases électorales pour prendre ou ne pas prendre des décisions. Ça, la Convention citoyenne pour le climat, elle va échapper à ça, puisque c'est un mandat qui sera terminé. Il ne s'agit pas ensuite pour les citoyens d'être réélus. Vous disiez tout à l'heure, Pierre-Henri Tavoyot, que bon, ce qui vous rassurait d'une certaine manière, c'est que le Parlement, malgré tout, aurait le dernier mot. Est-ce qu'on est sûr que le Parlement aura le dernier mot? Ce que je veux dire, c'est que si ce sont des décisions qui sont prises par une assemblée qui est censée être représentative des citoyens, est-ce que le Parlement aura la possibilité, alors il aura la possibilité, on va dire, légale, mais est-ce qu'il aura la possibilité morale, disons, de s'opposer à ce qui pourra sortir d'une telle convention? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à ce qui aura les attraits de la légitimité populaire?
Le Parlement met en forme les questions pour le référendum, c'est-à-dire un référendum passe toujours par le filtre du Parlement, donc c'est déjà aussi un garant. Mais voyez le problème aujourd'hui, et ça témoigne aussi du ton qu'on entend dans les quelques textes qu'on a autour de la Convention, et puis par d'autres mouvements, c'est qu'il y a une méfiance profonde à l'égard du pouvoir. Et on pense que pour être aujourd'hui un bon citoyen, il faut être contre le pouvoir, voire, ça peut aller même plus loin, je pense à Extinction Rébellion notamment, il faut détruire le pouvoir. C'est une erreur magistrale. Aujourd'hui, il faut pas détruire le pouvoir, il faut pas être contre le pouvoir. On manque de pouvoir sur ces questions. Ce qui est le plus frappant sur ces questions écologiques, c'est que justement, nous sommes face à des décisions par excellence qui sont tragiques. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise décision, il y a la bonne, il y a la mauvaise et la pire. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et pour ça, il faut des responsables, des gens qui tranchent. C'est pas, s'il y avait la bonne et la mauvaise, il n'y aurait pas besoin de politique. C'est ça vraiment la difficulté. Et sur ces questions environnementales, on est vraiment ici dans une logique de hiérarchisation de priorités qui est extrêmement complexe et avec lesquelles il faut effectivement trancher de manière très violente parfois.
Qu'est-ce que c'est qu'un bon invité, Pierre-Henri Tavoyot? C'est quelqu'un qui vous sort la bonne référence au bon moment. Vous avez parlé d'Extinction Rébellion. Écoutons justement certains de ces militants. C'est un extrait d'un reportage de France 24, Extinction Rébellion. Je rappelle, c'est ce mouvement citoyen qui appelle à la désobéissance civile et interpelle les gouvernements en leur demandant d'agir davantage sur les questions du changement climatique.
On ne fait pas de la désobéissance civile pour faire de la désobéissance civile. On fait vraiment de la désobéissance civile parce qu'on veut faire passer un message. On occupe ce lieu parce qu'on veut alerter vraiment l'opinion publique à une réelle urgence climatique, ainsi que le gouvernement qui, pour l'instant, est d'une stratégie passive sur la question alors qu'il y a une réelle urgence. On n'a plus le temps de faire des marches, on n'a plus le temps de faire des trucs symboliques. Maintenant, il faut agir et vite.
Les manifestations dans lesquelles il y a une violence produisent un grand effet médiatique. Nous, on croit que la violence, que ce soit d'une façon morale ou d'une façon stratégique, ne sert pas son but. Et nous, on se rend compte que pour la question écologique, on a besoin de se poser des questions en tant que société. Et pour poser des questions en tant que société, on a besoin de tout le monde. Donc on a besoin des enfants, on a besoin des grands-parents, on a besoin de tout le monde. Et dès qu'on tombe dans la violence, on les perd.
Bon alors, Pierre-Henri Tavoyot, vous qui êtes un ardent défenseur de la démocratie représentative, ce dont on peut se rendre compte en lisant votre dernier livre, « Comment gouverner un peuple roi », vous devriez adhérer à la démarche d'extinction rébellion. Vous disiez juste avant cet extrait sonore qu'ils appellent à détruire l'État, mais ils appellent pas à le détruire, ils l'interpellent, ils lui demandent d'agir. C'est bien une façon de s'en remettre à ceux qui sont en poste pour prendre les décisions politiques, c'est pas de prendre des décisions politiques à la place des représentants.
Non, si vous allez sur le site d'Extinction Rébellion, c'est un site où il est explicitement dit qu'il y a une méfiance à l'égard du pouvoir et je cite, hein, de mémoire, mais je cite, qu'il faut d'une certaine façon ne faire absolument pas confiance au pouvoir quel qu'il soit. Donc c'est un mouvement de désobéissance civile, d'inspiration, ça correspond à une philosophie politique très précise, ça s'appelle l'anarchisme, c'est-à-dire l'idée que finalement les citoyens se débrouillent beaucoup mieux tout seuls, sans État. Donc d'une certaine façon, ils attendent de l'État un peu de répression pour que le marketing de la communication passe mieux. Bon, l'État est extrêmement bienveillant et les laisse agir, donc malheureusement ça n'arrive pas, ce qui leur permettrait effectivement d'avoir une communication plus efficace. Mais non, je pense que c'est vraiment un mouvement qui est un mouvement d'inspiration anarchiste et qui n'est pas du tout dans une logique ni démocratique d'ailleurs. Que je rappelle juste une petite chose, hein. Dans démocratie, il y a démos, donc il y a le peuple, mais il y a kratos, il y a pouvoir. Et donc la démocratie, c'est un jeu à deux jambes où il faut que le pouvoir s'exerce à travers le peuple. L'anarchie, c'est il y a le démos, il n'y a pas de kratos. Il faut être bien clair là-dessus, on est contre le pouvoir.
Dans votre livre, Pierre-Henri Tavoyot, vous écrivez « En démocratie, l'art de gouverner est un art d'être gouverné ». Mais quand on considère qu'on est mal gouverné, quels sont les outils dont on dispose en dehors des rendez-vous électoraux? Alors certes, vous allez me dire, c'est sans doute ce qui fonde la démocratie représentative, mais en dehors de ces rendez-vous, si on considère par exemple que sur la question climatique, rien n'est fait, ou en tout cas, que les choses ne sont pas faites de manière suffisamment importante et rapide, on est bien obligé d'imaginer d'autres solutions. Ça peut être la désobéissance civile, ça peut être la pétition, ça peut être tout un tas de choses. Le RIC, dont on a beaucoup parlé avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Alors, j'ai une conception exactement inverse, mais de la citoyenneté. Je pense que être citoyen, c'est obéir. Voilà, ça choque évidemment tout le monde. Juste, on oublie que obéir, c'est pas être dans la servitude. Je redis cette petite phrase de Rousseau, qui est quand même pas réputé être un défenseur de l'autoritarisme. Un peuple libre obéit, mais ne sert pas. Il a des chefs, mais il n'a pas de maître. Voilà. Je trouve que tout est dit là-dedans. Obéir, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ça veut dire prêter l'oreille. Ob audire. C'est-à-dire obéir, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul au monde. Il y a d'autres personnes, il y a des nécessités, il y a de la réalité, il y a des gens qui font de l'économie, il y a des intérêts financiers, mais on doit aussi les écouter. Et donc obéir, c'est l'idée que le monde est un peu complexe et qu'il faut vivre avec les autres. Je trouve que dans ces mouvements-là, on a un mouvement qui est un mouvement narcissique, avec une logique monomaniaque, avec une clé de lecture, et au nom d'une fin du monde annoncée, si on applique le programme de ces personnes, eh bien la fin du monde arrivera beaucoup plus tôt, parce qu'on va être dans des conflits inéluctables avec une logique et une logique. Voilà, entrons dans la décroissance, entrons dans une logique de déséconomisation de notre système. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une perspective où il n'y a pas d'altérité. Chacun est dans son coin et suit sa propre cause, en oubliant le reste du monde.
Si on suit votre logique, Pierre-Henri Tavoyot, logique qui ne manquera pas, à mon avis, de susciter quelques réactions. Hein. C'est aussi l'intérêt de cette discussion. Mais à quoi vous attribuez le fait qu'il y aurait ce narcissisme dont vous parlez? À qui la faute?
En fait, la faute, et c'est vrai que si on prend un tout petit peu de recul et qu'on essaye d'expliquer ce type de mouvement, là, c'est très profond, et c'est quelque chose qu'on peut tous partager, c'est le fait que nous sommes tous en démocratie dans le sentiment de la dépossession démocratique. La démocratie, c'est la promesse pour le peuple de maîtriser son destin. Et la mondialisation, la complexification, la financiarisation, tous ces éléments, même dans nos vies personnelles, nous laissent penser que nous ne maîtrisons plus rien. Voyez, même si la France décidait une politique anti-carbone ultra vertueuse, l'impact sur le climat serait quasiment nul. Et donc, c'est quand même un sale coup au moral. La France, grande puissance, non, là-dessus, ça aurait aucun effet. Le seul effet que ça aurait, serait que la concurrence avec les autres économies ferait qu'on irait de plus en plus mal. Donc, vous voyez, c'est ça, ce sentiment. Et donc, je dis narcissisme quand je critique les choses, mais plus profondément, le vrai défi aujourd'hui, c'est la dépossession démocratique. C'est comment on fait pour reprendre un peu de maîtrise de son destin sur tous ces sujets qui sont des sujets très complexes. Pour moi, c'est pas dans la désobéissance civile qu'on va retrouver son destin, la maîtrise. Au contraire, on va accentuer l'absence de maîtrise. Je pense que c'est dans la confiance aux institutions et notamment aux institutions de la démocratie représentative. Je pense que c'est le pouvoir, je le dis très clairement, qui nous sauvera.
Oui, parce que je reviens toujours à comment gouverner un peuple roi. Vous examinez aussi un certain nombre d'outils d'outils délibératifs, d'illusions participatives. Ça, c'est les termes que vous employez, qui trouvent pas beaucoup plus grâce à vos yeux que la désobéissance civile. Il y a par exemple le cas de la pétition. Alors, on pourrait se dire, si il y a une désappropriation pour se réapproprier la politique, parce que la confiance, ça ne se décrète pas. Il y a aussi peut-être des moyens d'agir pour les citoyens, pour retrouver cette confiance. La pétition, par exemple, pour vous, c'est un gadget qui n'a aucune utilité ?
Non, pas du tout. La pétition peut avoir plein de sens. Mais ce que je remarque aujourd'hui, quand je revais sur les sites pétitionnaires, c'est qu'on pétitionne surtout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dilution générale. Vous pouvez défendre le scarabée à poils roux. Enfin, il y a une sorte d'inflation pétitionnaire qui fait que la pétition est totalement perd tout son sens et toute son efficacité. Moi, si vous voulez, l'objection principale à l'égard de la démocratie participative, je vais la formuler vraiment très simplement. Personnellement, j'adore la politique, je l'enseigne, je pratique, je me passionnerais d'aller à ces réunions. Mais quand même, il y a des moments où j'ai envie de faire autre chose. Et donc, si on installe une démocratie participative, ça veut dire, il faut être honnête, que les élus, les professionnels de la politique disparaissent et que c'est à les citoyens de faire le boulot. Or, moi, comme je vais pas y aller tout le temps à ces réunions, parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai une famille, j'ai des loisirs, je vais pas y aller tout le temps. Donc, qui va y aller à ma place? Des militants. Et ces militants pourront se déclarer eux-mêmes être le peuple, puisqu'on leur a donné. Et donc, je dis, la démocratie représentative, participative, c'est la dictature des gens qui ont le temps. Ou des militants. Et donc, c'est une usurpation du pouvoir du peuple. Et j'ai beaucoup plus confiance en des élus que je peux virer à la fin de leur mandat, contre lesquels je peux râler, plutôt que des citoyens qui vont se dire voilà, nous sommes là simplement parce que nous avons le temps, parce que nous sommes des militants. Voilà mon objection.
Là, pour le coup, c'est pas un reproche qu'on pourra faire aux participants à la Convention citoyenne pour le climat, absolument. Parce qu'ils n'ont pas été choisis pour leur militantisme.
Non, pas du tout. Ça, c'est pas un reproche qu'on peut faire de ce point de vue-là. Et on n'est pas ici dans une démocratie participative à proprement parler, mais plutôt ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Donc c'est autre chose. Mais voilà mon objection principale. Faisons en sorte de défendre plutôt nos élus, de les revaloriser au lieu de les détester dès lors qu'on a voté pour eux.
Il y a une autre objection que vous évoquez et que je trouve très intéressante, je vous cite. La participation pose un insoluble problème de responsabilité. Si l'ensemble des citoyens élabore et contribue à la prise de décision, qui sera responsable des mauvaises et qui prendra les douloureuses? La participation annihile ainsi un des piliers de la démocratie.
Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la politique, c'est le fait de choisir entre une mauvaise et une pire décision. C'est-à-dire que il y a une dimension tragique en politique. On est forcément coupable quand on est politique, c'est-à-dire décider, c'est trancher. Trancher, c'est violent. Voilà. Et c'est vrai qu'en démocratie, on n'aime pas beaucoup ça, la violence, parce que pour une bonne raison, hein, c'est une démocratie plutôt pacifique. Donc dès qu'un politique tranche, forcément, il sera détesté par une partie de la population. Et donc, voyez, le problème d'une décision de l'intelligence collective, comme on dit, d'abord, ça peut produire aussi de la bêtise collective, ça existe aussi, il ne faut pas totalement négliger la possibilité. Et par ailleurs, c'est que la responsabilité se dilue totalement. Et on voit d'ailleurs que les quelques expériences de démocratie participative qui existent, notamment au niveau local, parce que là c'est intéressant, c'est une petite convivialité, une petite communauté, on s'aperçoit qu'elle ne dure jamais vraiment très longtemps. Il y a une sorte d'enthousiasme au début, ce sera sans doute le cas aussi sur la convention citoyenne, d'enthousiasme au début parce qu'on est animé par un même projet, et puis progressivement, avec le temps, les choses se diluent. Pourquoi ? Parce que c'est pas de l'institution. Ce qui caractérise l'institution, c'est que ça dure. C'est vrai que c'est désagréable, c'est pas enthousiasmant, les élus, etc. Mais ça dure, ça assure une durabilité du système politique et démocratique, et c'est, je pense, pour ça qu'il faut le défendre.
Alors prenons justement un exemple de participation démocratique au niveau local avec un dispositif qui nous vient des anglo-saxons. Bonjour Cyril Marchand.
Bonjour.
Et ce dispositif, c'est le community organizing.
Prenez un habitant qui souffre d'un problème aussi banal qu'une nuisance sonore dans son quartier. Seul face à ce problème, cet habitant peut tout simplement se résigner, mais il peut également entreprendre une enquête grâce à l'appui d'un organisateur, rencontrer d'autres personnes touchées par la même nuisance. Collectivement, ces habitants pourront trouver une solution à leurs problèmes. C'est aussi simple que ça, le community organizing. Une alliance d'individus, d'associations dont l'intérêt commun est d'agir pour améliorer leurs conditions de vie. La politologue Hélène Balazar a travaillé sur ces questions.
Il va justement aller là où le système représentatif a ses limites. Il ne cherche vraiment pas à se substituer. Et même, au contraire, il y a des fois, en parallèle d'actions menées par des community organizations, des démarches pour faire que les personnes s'inscrivent sur les listes électorales, et appellent à voter, à aller aux élections, à faire peser, en disant qu'il y a une palette, en fait, de manières de s'exprimer et d'avoir de peser sur les décisions qui nous concernent, et le vote en fait partie.
Il ne faut pas en déduire que le community organizing fait le jeu du communautarisme, bien au contraire. Ce sont des micro-sociétés ouvertes, certes, mais qui s'organisent à petite échelle pour mieux s'ouvrir ensuite aux problématiques de la représentation nationale.
Le community organizing essaye d'aller justement dans ces espaces-là pour recréer un peu de l'intérêt pour le politique. C'est des petites sociétés où on apprend à s'impliquer dans l'organisation de la vie de la cité, c'est-à-dire de la grande société.
En 2010, les conservateurs britanniques portés par David Cameron ont été les premiers à soutenir ces initiatives citoyennes pour redonner un souffle à la campagne lors des élections nationales. L'ancien directeur de London Citizens vient d'ailleurs d'annoncer sa candidature pour les prochaines législatives, preuve que l'initiative citoyenne peut quand même profiter à tout le monde.
Donc ça, il n'aurait pas pu le faire en tant qu'organisateur, mais maintenant qu'il a pris sa retraite, il peut le faire et donc il appelle ça un organizer MP. Il se voit comme étant un député organisateur. Alors là, ça va être très intéressant à voir si jamais il est élu, ce que je lui souhaite, Neil Jameson, ce que ça va donner.
La chercheuse Hélène Balazar qui a publié Agir en démocratie aux éditions de l'Atelier en 2015.
Alors Pierre-Henri Tavoyau, vous voyez bien qu'il peut y avoir de la complémentarité entre démocratie participative et démocratie représentative.
Alors, c'est pas exactement la démocratie participative. Il me semble qu'on est ici dans des stratégies de médiation qui sont intéressantes entre les citoyens et eux-mêmes. Donc c'est des logiques plutôt de médiation, mais avec toujours l'idée, vous voyez, la difficulté, c'est que si les gens se réunissent, ils peuvent s'entendre. Oui, mais parfois les gens se réunissent et ils s'entendent pas. Il y a des conflits qui sont insolubles. Donc il ne faut pas oublier d'envisager cette hypothèse. C'est-à-dire, parfois, si vous voulez, entre quelqu'un qui a une activité économique et puis quelqu'un qui a une activité de loisir, il n'y a pas de réconciliation possible. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut trancher. Donc vous voyez, c'est une médiation, mais la politique, ce n'est pas que la médiation, c'est aussi trancher des conflits.
Eh ben, merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyau d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Comment gouverner un peuple roi », publié aux éditions Odile Jacob. Politique, une émission préparée par Cyril Marchand, réalisée par Anna Olvec, avec à la prise de son Pierrick Monsigny, émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Je vous retrouve lundi matin à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture. À 12h45, la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Et dans un instant, le journal de 12h30.